information. Alors, brevetage du vivant, non, pas exactement, bien que nous ne soyons pas très loin des OGM. C'est vrai qu'on n'en est pas loin. Différents films nous avaient alertés. La plupart étaient des films d'anticipation, de science-fiction, de futur plus que noir. On peut penser à des films comme Fahrenheit 451, entre autres. On peut penser aussi au livre Le meilleur des mondes. On peut penser à tous ces sujets-là, tous mélangés, et qui nous tombent dessus, mais doucement, de manière assez discrète. J'en veux pour exemple les informations, le 13h, le 20h, qui ne parlent pas de sujets qui pourtant, demain, nous regarderons tous. Effectivement, on est assez heureux en France actuellement, car les ordinateurs se vendent de mieux en mieux, les connexions Internet sont de plus en plus puissantes, et tous nos ministres, nos politiques se félicitent de cette augmentation de connexion au réseau ADSL. C'est bien normal, Internet, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais quand même, c'est pratique. Donc tout le monde se félicite, et pourtant, on se rend compte que Internet se démocratisant, il y a de moins en moins de liberté sur le web. Pour quelles raisons? Et surtout, qu'est-ce qui nous attend dans le futur? C'est une des questions que nous avons posées à Gérald Cedrati-Dinet, qui est notre invité aujourd'hui, que nous appellerons Gibus, car c'est ainsi qu'il signe ses articles. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur notre antenne. Tu es donc pour la France président du...
Vice-président de la FFI, qui est un sigle anglais, qui veut dire l'Association pour une infrastructure informationnelle libre. C'est une association qui regroupe des membres dans toute l'Europe et qui a pour objet de promouvoir les savoirs dans le domaine de l'informatique. La FFI soutient le développement de biens informationnels publics fondés sur les droits d'auteur, la libre concurrence et les standards ouverts. Elle compte plus de 500 membres, dont beaucoup de sociétés d'entreprises et 80 000 supporters qui ont chargé la FFI de représenter leurs intérêts dans le domaine de la législation sur les droits de propriété intellectuelle en Europe et notamment sur une directive sur les brevets logiciels.
Et là, j'imagine déjà beaucoup de nos auditeurs se dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? De quoi parle-t-on exactement ?» C'est vrai que ça peut sembler compliqué au premier abord, même quand on regarde le site, mais si on s'y attarde quelques instants, on comprend vite de quoi on parle, et c'est justement pour ce pourquoi tu es là aujourd'hui, pour vulgariser ce discours et expliquer qu'il touche strictement tout le monde, et non pas seulement les entreprises et les informaticiens, mais nous, dans notre vie quotidienne. Donnons immédiatement le site internet, c'est le ffii.org. FR, oui, enfin sur Org on a toutes les langues, ça permet, je dis ça comme ça, donc ffii.fr pour ceux qui veulent le lire en français, mais si vous voulez faire circuler, et on le sait c'est très facile dans le monde entier grâce à internet ce site, n'hésitez pas, ffii.org pour toutes les langues et .fr pour la France assez logiquement. Pourquoi t'intéresser ainsi à ce sujet, Gibus ?
Eh bien parce que dans ma vie professionnelle, je suis informaticien, donc je développe des programmes informatiques, et les brevets logiciels m'empêcheraient de faire mon travail et de réaliser des programmes. Et comme tu l'as très bien dit, en fait, la menace apparaît dans quelques films de fiction, dans des débats sur le brevetage du vivant, les OGM, etc. Et c'est vrai que le brevet est un excellent moyen d'obtenir un monopole et d'avoir le contrôle sur de la diffusion d'informations. Je crois que c'est très important déjà de faire un distinguo entre ce qu'est un brevet et le droit d'auteur, puisque ce sont là deux formes de protection de l'information.
Ça me paraît effectivement primordial pour commencer à essayer de comprendre quel est le sujet. Je tiens tout de même à rappeler qu'il y avait une manifestation aujourd'hui, plus exactement ce matin, qui a commencé à 10h si je ne me trompe pas, une manifestation donc à Bruxelles.
Oui, tout à fait. Elle a rassemblé 250 personnes à Bruxelles. En pleine semaine, c'est très bien, surtout pour un sujet aussi précis. Et les manifestants ont fait usage de bananes. Il y avait beaucoup de bananes distribuées car leur revendication était que l'Europe ne devienne pas une Europe bananière, dans ce sens que où sur cette directive-là, il y a quelques dénis de démocratie qui se font, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de l'émission, avec peut-être un intervenant qui a participé à cette manifestation au bout du fil.
Oui, logiquement, nous devrions avoir Benjamin aux alentours de 15h sur l'antenne de Radio Ici Maintenant, qui nous expliquera exactement ce qu'il s'est passé aujourd'hui à Bruxelles, et s'il n'y a pas eu de problème pendant la manif, mais je ne pense pas, les autorités sont débordées par des manifs où il y a plus de personnes d'habitude, donc ça devrait aller 250. Alors, brevet et droit d'auteur, la différence.
Alors,
ça va nous amener à Victor Hugo, ça c'est très amusant.
Effectivement, quand on dit qu'on est contre les brevets logiciels, souvent on nous fait le reproche d'être contre toute forme de protection. On nous accuse d'être des pirates, de pas vouloir rémunérer les auteurs, etc. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et il arrive même que des ministres se trompent un peu en la question. C'est arrivé notamment à Patrick Devedjian, qui est en charge du dossier sur les brevets logiciels pour la France, lors d'un forum à l'automne dernier, où Richard Stallman, qui est l'inventeur, le créateur des logiciels libres, lui posait une question pour lui demander quelle était la position de la France sur ce dossier des brevets logiciels. Et Patrick Devedjian lui a répondu un petit peu à côté de la plaque en lui disant que c'était un sujet compliqué, mais qu'il y avait une frontière à établir entre ce qui devait être libre et ce qui ne l'était pas, que par exemple pour la littérature, la propriété intellectuelle avait le mérite et le droit d'être protégée, mais qu'elle ne l'était pas dans l'absolu. À un moment donné, la création tombait dans le domaine public, comme les écrits de Victor Hugo, qui maintenant ont été écrits il y a plus de 90 ans. Et donc, tout le monde a le droit de publier Victor Hugo sans verser de droit. Mais là, il y a tout de suite une confusion, puisqu'on a le droit de publier Victor Hugo parce que il est tombé dans le domaine public, mais avant, son œuvre était protégée par le droit d'auteur. Et c'est ce qu'on demande également pour les logiciels, et c'est ce qui est le cas actuellement. Ils sont protégés par les droits d'auteur et non par le brevet. Alors, si les œuvres de Victor Hugo avaient été protégées par un brevet, qu'est-ce que ça aurait donné? Eh bien, avant que Victor Hugo se mette à écrire Les Misérables, il aurait pu découvrir un brevet, alors qui décrit en termes très techniques et on a du mal à comprendre souvent des revendications. Une revendication aurait pu être un procédé de communication caractérisé par l'introduction dans l'esprit d'un lecteur, du concept d'un personnage ayant été en prison durant une longue période de temps, si bien qu'il se sent aigri contre la société et le genre humain. Vous voyez, tout de suite, c'est quelque chose qui n'emploie pas un langage de tous les jours, et on a du mal à voir ce que ça protège. Eh bien, avec ça, comment Victor Hugo aurait pu raconter l'histoire de Jean Valjean, qui est un ancien bagnard, misanthrope, potentiellement violent, qui est recueilli par un abbé ensuite. Alors, on aurait pu imaginer également que pendait une revendication du type une revendication sur un procédé de communication caractérisé en ce que le personnage réussit à gravir l'échelle sociale. C'est ce qui est arrivé à Jean Valjean, qui est devenu Monsieur Madeleine et qui est devenu maire d'une ville. Et vous voyez, ces revendications portent en fait sur des sujets qui sont sur les idées qui sont sous-jacentes en fait à l'écriture du roman. Donc si ces revendications avaient pu être déposées sur les romans, Victor Hugo aurait été bien en mal d'écrire Les Misérables. À la rigueur, il aurait pu contourner ces points très précis. Alors, lorsqu'on serait tombé sur des revendications sur une œuvre décrivant la bataille de Waterloo, on se souvient qu'il y a Stendhal qui a parlé de la bataille de Waterloo. Alors, on aurait dû éliminer toute cette partie des Misérables. S'il y avait eu quelque chose sur un roman d'aventure sociale, eh bien, Eugène Sue avait écrit Les Mystères de Paris, Alexandre Dumas avait écrit Le Comte de Monte Cristo. Comment Victor Hugo aurait-il pu écrire Les Misérables dans ces conditions? Et s'il n'avait pas pu écrire Les Misérables, évidemment, cette œuvre ne serait jamais tombée dans le domaine public, comme le soulignait Monsieur Duvier-Jean. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour les logiciels. On a besoin qu'il n'y ait pas de protection, d'interdiction d'utiliser les idées générales qui sont à la base des logiciels, comme par exemple un clic de souris, ou bien des tabulations dans une fenêtre lorsqu'on a plusieurs onglets. Si ces concepts sont protégés, il devient de plus en plus impossible d'écrire de logiciels. Alors que
ça veut dire qu'on est obligé, par exemple, pour une fenêtre dont le brevet a été déposé, pour en utiliser une autre, et on est obligé de créer une nouvelle fenêtre, un nouveau type de fenêtre pour avoir le droit de l'utiliser.
Exactement, on ne pourrait pas bénéficier de cette amélioration qui sont les onglets. Vous avez certainement l'habitude des onglets lorsque vous utilisez Firefox ou dans n'importe quelle petite fenêtre, vous avez des petits onglets qui permettent de partager la fenêtre. C'est une superbe innovation. Mais si elle est protégée par un brevet, tout logiciel qui utilise ces petits onglets ne pourrait être écrit sans reverser d'argent au titulaire du brevet.
Alors, Firefox ?
Firefox, c'est un navigateur Internet libre qui est basé sur Mozilla, qui est une alternative très puissante à Internet Explorer, qui a tendance à s'imposer de plus en plus comme grand concurrent d'Internet Explorer.
Internet Explorer qui fait directement partie de Microsoft, donc.
Exactement.
Voilà. C'est important à préciser tout de même, parce qu'il y a beaucoup de termes qui vont être utilisés aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas Internet, ce n'est pas à la portée de tout le monde, ne serait-ce que d'avoir un ordinateur. Donc bien expliquer les termes cet après-midi. Donc en fait, on aurait pu reprocher à Victor Hugo d'avoir utilisé des choses brevetées, et ces choses brevetées n'auraient été autres que la trame narrative ou historique de la chose, ou de lieu, ou de personnage, ou d'événementiel. Donc impossible d'écrire quelques romans que ce soit dans ce cas-là, si tout cela avait été breveté avant lui.
Exactement. Le brevet porte en fait sur des idées générales, des abstractions de ce qui est raconté dans le livre. Alors que le droit d'auteur, qui protège très bien toute œuvre de littérature contre tout plagiat, est là pour empêcher qu'on recopie mot pour mot un ouvrage, ou alors qu'on raconte Les Misérables en changeant simplement le nom des personnages. Gavroche s'appellerait Adam ou des choses comme ça. Le droit d'auteur est très bien fait pour ça, et c'est la même chose pour les logiciels. On venait de citer Mozilla et Firefox qui permettent de naviguer sur Internet, tout comme Internet Explorer le fait. Si on recopie le code informatique de Internet Explorer, on n'a pas le droit parce que c'est protégé par le droit d'auteur. Par contre, il est important qu'il n'y ait pas de brevet qui protège, par exemple, tout logiciel permettant de naviguer sur Internet. Sinon, aucun concurrent pourrait voir le jour.
Il me semble important, ce début d'émission, d'expliquer à nos auditeurs ce que sont les logiciels libres pour bien comprendre, bien faire la différence.
Tout à fait, parce que les logiciels libres sont une catégorie de logiciels qui est directement visée par les brevets logiciels et qui ne pourrait pas se développer s'il y avait des brevets logiciels. Donc les logiciels libres, c'est un concept qui a été inventé par Richard Stallman et qui sont des logiciels écrits par des gens qui mettent à disposition leur logiciel et qui revendique la liberté de l'utilisateur, liberté d'utiliser le logiciel, c'est déjà une première chose, liberté de étudier ce logiciel et éventuellement d'en corriger les erreurs s'ils ont les compétences techniques pour le faire, liberté de diffuser ce logiciel, si un ami vous le demande, bien vous pouvez lui donner sans enfreindre aucune loi, parce que l'auteur du logiciel, le plaçant en logiciel libre, le permet, et puis liberté de faire profiter tout le monde des modifications et des améliorations qu'on a pu apporter à ce logiciel.
Alors certains vont se demander, mais qu'y a-t-il à gagner ? On sait très bien ce que gagnent des grosses firmes qui ont déposé leurs produits et qui ne sont pas donc utilisables par tous, à part en achetant les logiciels en question, les programmes en question. Que gagnent tous ceux qui développent les logiciels libres ?
Voilà, effectivement, toutes ces libertés pour l'utilisateur sont interdites par les logiciels propriétaires dont la plupart des gens ont l'habitude. Lorsque vous achetez Word, par exemple, comme traitement de texte, en fait, vous achetez le droit d'utiliser Word dans des conditions très précises. Il n'y a que vous qui avez le droit de l'utiliser, seulement sur votre ordinateur. Et si votre grand-mère vous le demande, vous ne pouvez pas lui donner. Alors ça c'est très bien pour rémunérer effectivement les auteurs de ce logiciel Word, mais il y a d'autres moyens en fait de rémunérer les auteurs de logiciels, et il faut savoir que la plupart en fait des gens qui écrivent des logiciels ne le font pas pour le grand public, mais le font pour des entreprises dans des cas particuliers. Comment gérer la paye de telle ou telle PME, comment assurer le passage aux 35 heures ou le passage à l'euro dans telle ou telle PME. Ces petits logiciels qui sont écrits donc spécifiquement pour une entreprise, n'ont pas besoin d'être vendus en tant que tel aux entreprises, mais c'est le service qu'il y a autour, c'est-à-dire l'installation, la formation des utilisateurs qui peut être rémunéré. Et en fait, la plupart des créateurs de logiciels se rémunèrent autour de ces activités de service plus que par la vente d'un logiciel, parce qu'un logiciel finalement c'est rien d'autre qu'une description, un manuel qui décrit comment faire certaines opérations. Donc ça n'a pas plus grande valeur qu'un manuel qui vous explique comment changer la roue de votre voiture. Ce que vous payez lorsque vous allez changer la roue de votre voiture, c'est l'intervention du garagiste. C'est pas le manuel qui explique comment faire ça. Et bien c'est la même chose avec les logiciels, et les logiciels libres permettent cette liberté.
Et alors récemment, pour tous ceux qui l'ont entendu, la France a souhaité passer au logiciel libre, notamment Paris.
Tout à fait. La ville de Paris a décidé d'imiter sa consœur allemande de Munich en équipant tous ses services de logiciels libres, ce qui fait une économie substantielle effectivement sur les achats de logiciels, et ce qui lui permet également d'avoir une grande indépendance, de ne pas être dépendant de fabricants de logiciels lorsque il y a une panne, lorsque on veut assurer la sécurité, si jamais les institutions, pas mal d'institutions gouvernementales qui ont décidé de passer au logiciel libre. De plus en plus, on remplit sa déclaration d'impôt sur Internet. Imaginez que le logiciel qui soit utilisé pour faire cette déclaration soit propriétaire. Eh bien, on dépendrait complètement du fabricant du logiciel pour assurer la sécurité des données lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôt.
Un peu comme nous dépendons des banques pour recevoir notre salaire ?
Un petit peu, tout à fait. Alors qu'avec le logiciel libre, le logiciel appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit de le corriger, de voir ce qui se passe à l'intérieur, et peut éventuellement corriger certains trous de sécurité, faire des améliorations. Et ça offre une plus grande indépendance, en fait, de celui qui utilise ce genre de logiciel.
Mais il y a quand même une tête pensante qui décide si oui ou non telle ou telle chose est bonne pour...
Tout à fait, ça s'organise très bien en fait. La personne qui décide de créer un logiciel libre garde en général la maîtrise des évolutions qui se font autour de ce logiciel. Et les contributions venant de n'importe qui, en fait, lui reviennent, et il décide lui-même ce qu'il faut mettre en œuvre ou pas.
Alors comme le logiciel libre se développe, on va bien sûr expliquer tout ça au fur et à mesure, comme beaucoup de pays décident d'aller vers les logiciels libres et comme on crée de nouvelles techniques, est-ce que le combat ne devrait pas être justement du côté du développement des logiciels libres plutôt que contre le brevetage ?
Le combat est complètement du côté du développement des logiciels libres. Il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de ça. Je peux citer April en France, qui s'occupe de promouvoir donc les logiciels libres et qui a beaucoup œuvré pour que les administrations françaises prennent en compte ce genre de logiciels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le brevet logiciel est complètement antinomique avec ce type de développement, puisqu'on a vu que pour avoir un logiciel libre, on devait être libre de d'utiliser le programme comme on le veut, de le modifier comme on le veut. Si jamais il y a un brevet sur ce type de logiciel, eh bien n'importe qui ne pourra absolument pas utiliser le programme sans payer de droits au détenteur du brevet. Dès qu'il y a un brevet sur un logiciel, en fait, cela a pour conséquence une augmentation des prix. Or, les gens qui développent des logiciels libres le font en général bénévolement, ou alors c'est des entreprises qui délèguent certains de leurs employés à cette tâche. Et si on doit payer quelque chose pour avoir le droit de faire de la programmation, c'est beaucoup moins ouvert à ce genre d'acteurs, en fait.
Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Nous recevons aujourd'hui Gibus. Nous parlons de brevetage de programmes, de logiciels. Vous intervenez dès maintenant. Nous ouvrons le standard 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, vous posez vos questions dès maintenant, le sujet est compliqué, mais là on vous offre la possibilité de comprendre quelque chose qui va régir votre vie de tous les jours d'ici une quinzaine d'années, maximum, hein. Je veux dire même d'ici 5 ans, mais je vais essayer d'être optimiste. Gibus est là pour répondre à vos questions, donc 08 92 23 95 20. D'ailleurs Nicolas nous a appelé. Nicolas, bonjour.
Bonjour, voilà, moi je suis créateur de logiciels de musique. Et en fait j'avais une question parce que je découvre un petit peu le sujet. J'avais une question pour votre invité. Je voulais savoir je vais donner un exemple en fait assez simple. Si par exemple demain il y a une grosse société concurrente de la mienne qui dit voilà, nous brevetons le concept de boîte à rythme en logiciel. Est-ce que j'ai quelque chose à craindre d'une chose comme ça?
Tout à fait. C'est le genre de choses qui peuvent complètement être brevetées. Et effectivement, s'il y a un brevet dessus, il y en a peut-être déjà un, mais c'est très difficile de le savoir. Il faut rechercher dans les bases de brevets de l'Office européen des brevets.
Oui, mais ça serait un brevet, si par exemple, parce que la boîte à rythme, ça existait bien avant les ordinateurs. Donc, est-ce que ça pourrait être aussi un brevet, disons, d'une machine réelle qui pourrait être transférée comme ça au niveau du droit, au niveau informatique et logiciel ?
Tout à fait. En fait, les brevets portent sur les concepts qui peuvent être mis en œuvre par des logiciels. Et le fait de mettre en œuvre une boîte à rythme dans un logiciel est un concept qui peut être totalement breveté. Et il y a à craindre de ça.
D'accord. Donc il faut être le premier à breveter.
Alors, ça peut être une solution, ce qui n'est pas celle que l'on préconise.
Oui.
Il vaut mieux, en fait, que pour le moment, en fait, ce genre de brevet est interdit par le droit en Europe. Y a un problème là-dessus, et c'est pour ça que la FFI, dont je fais partie, se bat contre une directive européenne. Il y a un problème parce que l'Office européen des brevets a déjà accepté de tels brevets alors que le droit l'interdit.
D'accord.
Ce qui fait que pour le moment, en fait, les détenteurs de brevets ont des réticences à attaquer et à faire valoir leurs brevets.
Oui, oui.
Mais dès que la législation permettra à ce type de brevet d'exister, on peut s'attendre à voir nombre de procès, comme il en existe actuellement aux États-Unis,
mm-hmm.
où là, les brevets logiciels sont autorisés.
Ça fait penser au brevetage du vivant, en fait, aux techniques.
Tout à fait. En fait, dans les deux cas, le brevet permet de s'accorder des droits et de contrôler l'information, puisque dans les gènes et le vivant, tout ce qui est en jeu, c'est de l'information génétique.
Oui.
Ici, c'est de l'information pure. Un ordinateur, ça traite de l'information. Une boîte à rythme, c'est une information en termes de fréquence, de forme, d'ondes sonores. Eh bien, les brevets permettent de contrôler qui peut utiliser cette information, comment l'utiliser, avec quel moyen l'utiliser, c'est-à-dire avec quel logiciel la traiter.
Oui.
Et c'est ce genre de danger qui peut advenir en Europe si la directive sur les brevets logiciels est adoptée.
D'accord. Ce serait adopté par qui ? C'est la commission.
On va y venir peut-être tout de suite. C'est une directive donc de l'Union européenne qui, alors c'est peut-être un peu technique dans le langage des procédures juridiques dans l'Union européenne, c'est une directive qui revient dans une procédure de codécision, c'est-à-dire que la Commission européenne propose un texte qui doit ensuite, et le Parlement européen et le Conseil de l'Europe doivent ensuite s'accorder pour amender éventuellement ce texte et aboutir à une directive.
D'accord, et pour l'instant on en est juste à l'étude en fait du texte, c'est ça ?
On est en pleine navette en fait entre le Parlement et le Conseil. Le Parlement a déjà voté en septembre 2003 des amendements que nous soutenons pleinement et qui retournaient complètement le texte proposé par la Commission en définissant des limites claires qui excluent totalement les logiciels de la brevetabilité. Donc c'est passé maintenant entre les mains du Conseil qui doit se prononcer là-dessus.
Mmh.
Alors le Conseil, il se prononce, en fait, il doit adopter une position commune, ça se fait en deux temps. Il y a déjà un accord politique entre tous les ministres présents au Conseil. Pour la France, c'est le ministre de l'Industrie qui représente la France. Et tous ces ministres se sont mis d'accord en mai 2004 sur un texte qui a malheureusement ignoré tout ce que le Parlement avait introduit au bout d'un an de travail très scrupuleux, qui avait bien étudié le sujet. Les ministres, ma foi, ont balayé ça du revers de la main et ont adopté un texte très extrémiste qui autorise en pratique des brevets sur n'importe quel logiciel. Maintenant, il faut qu'ils entérinent cet accord dans une position commune, et depuis mai 2004, ils ont beaucoup de mal à le faire. Je pense qu'on y reviendra au cours de l'émission. Il y a pas mal de pays, de parlements nationaux qui se sont élevés contre ça. Et à ce jour, le Conseil n'a toujours pas adopté de position commune.
D'accord. Et au niveau de... S'ils finissaient par en adopter une et une mauvaise... qu'est-ce qui se passerait au niveau de l'antériorité ? Alors, c'est-à-dire des logiciels qui utilisent déjà des techniques et qui se retrouvent face à un brevet, en fait.
Alors, tout d'abord, ça ne serait pas la fin de la procédure législative, ça reviendrait au Parlement en deuxième lecture, puis ensuite au Conseil, ensuite il y aurait une conciliation, mais si au bout du compte, un texte qui autorise les brevets est adopté, en fait, tous les brevets qui ont été déposés aujourd'hui à l'Office européen des brevets, il y en a plus de 30 000, deviendraient applicables, c'est-à-dire que les détenteurs de ces brevets pourraient faire valoir leurs droits. Mmh. Et puis, il y en a...
Mais alors, vous disiez tout à l'heure que le dépôt de ces brevets, en fait, n'a pas été fait de manière légale, parce qu'il n'était pas... c'est ça que je crois que vous décriviez, non ?
En fait, l'Office européen des brevets, qui est une instance qui n'est contrôlée démocratiquement par personne, les gens qui siègent à l'Office européen des brevets, ce sont des examinateurs des offices nationaux, comme en France l'INPI, qui n'ont aucun contrôle démocratique, et qui ma foi, ont tout intérêt à accepter des brevets, parce qu'ils sont rémunérés, en fait, sur les brevets qu'ils acceptent. Dès qu'il y a un brevet accepté, il y a des redevances qui tombent tous les ans. Et puis, ces offices ont des obligations de rentabilité. C'est même défini par la loi en France, dans le code de la propriété intellectuelle. L'INPI doit être rentable. Donc, pour être rentable, évidemment, ils acceptent le maximum de brevets possible. En étudiant pas forcément... C'est très difficile d'étudier si un brevet est acceptable ou pas, notamment dans le cas des logiciels.
Faire des recherches, et etc. Oui.
Et les études ne sont parfois pas poussées à fond. C'est comme ça que, par exemple, un brevet sur la boîte à rythme pourrait très bien être accepté, malgré qu'on fait des boîtes à rythme de manière matérielle depuis très longtemps et qu'il n'y a pas de nouveauté d'inventivité qui permettrait de détenir un brevet là-dessus. Mais si on n'a pas les moyens de tellement chercher s'il y a cette antériorité, et si on est un peu poussé à accepter le brevet sera accepté.
D'accord. Et par exemple, moi, j'utilise, disons, pour me protéger au niveau du droit d'auteur, j'utilise l'IDDN, qui est un office européen de protection assez répandu.
J'ai pas compris
l'IDDN.
IDDN.
C'est Interdeposit Digital Number, je sais plus trop le... C'est IDDN.org, en fait.
D'accord.
Dans lequel vous pouvez marquer électroniquement un fichier et avoir une garantie comme ça sur l'antériorité au niveau de l'auteur, enfin de la création en elle-même. Quand un auteur se retrouve face à un brevet, qu'est-ce qui prévaut ? Est-ce que c'est l'antériorité du brevet ou c'est l'antériorité de la création ?
C'est une excellente question, en fait, parce qu'il y a conflit, en fait, entre ces deux types de protection qui sont le droit d'auteur et le brevet. Si le droit d'auteur est déposé, et ça se fait de manière automatique, dès que vous écrivez une œuvre, qu'elle soit littéraire, sonore ou un logiciel, elle est protégée.
Partout
en Europe et même dans le monde, c'est défini en fait par la Convention de Berne qui définit le droit d'auteur. C'est repris par plusieurs traités internationaux de l'OMC ou etc. Et donc pour le dépôt de droit d'auteur, il n'y a pratiquement aucune démarche à faire et ce n'est en général pas payant. L'œuvre est protégée dès qu'elle est écrite. Pour le brevet, il y a des démarches très coûteuses à faire. Il faut le déposer auprès d'un office, il y a des redevances à payer, il faut payer une examination permettant de déterminer s'il y a bien une invention ou pas. Donc c'est beaucoup plus coûteux. Et en fait, une œuvre ne devrait pas normalement être protégée et par le droit d'auteur et par le brevet. C'est quelque chose qui a été défini dans différents traités internationaux également. C'est ce que je disais au sujet de la littérature. On peut très bien protéger les misérables en empêchant d'écrire une histoire, même si le héros s'appelle Adam au lieu de Gavroche, une histoire qui raconterait, je sais pas moi, la lutte dans les barricades au 19e à Paris. Ça, c'est protégé par le droit d'auteur et il n'y a pas lieu d'avoir de brevet là-dessus. Mais la limite, en fait, entre ce qui est très précis et pur plagiat, et puis utilisation des mêmes idées beaucoup plus générales qui sont derrière ces œuvres, est très difficile à voir. Et c'est cette même limite qui détermine ce qui peut être protégé par droit d'auteur et par un brevet.
D'accord. Et, Et en cas de conflit, qu'est-ce qui se passe en fait s'il y a un conflit évident entre un droit d'auteur et un brevet, j'ai vraiment peine à imaginer en fait ce qui pourrait se passer. Est-ce que ce serait des procès en série comme ça ou...
Effectivement, ça serait des procès en série et malheureusement le droit des brevets a tendance à primer sur le droit d'auteur, certainement parce qu'il est beaucoup plus rentable.
Ouais.
Ce qu'il faut voir, c'est que les brevets dénient le droit aux auteurs de faire leur travail et d'écrire leurs œuvres. C'est ce qu'on revendique en tant que développeur de logiciels. Mmh. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir être libre de travailler normalement et d'écrire des programmes.
Ouais.
Voilà, Nicolas.
Ben, merci beaucoup, hein, c'était très éclairant.
Merci à toi et bonne chance.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, vous pouvez comme Nicolas poser vos questions à Jibu, c'est un sujet compliqué effectivement, mais profitez-en, vous ne le voyez pas dans le petit écran et vous n'êtes pas passif, vous êtes actif, vous avez des questions à poser, 08 92 23 95 20. Donc Jibus, on va continuer, selon ton plan, comme je le disais à l'instant, c'est un sujet quand même qu'il faut prendre quand on ne le connaît pas bien avec des pincettes, on va donc suivre ton plan, les auditeurs vont t'interpeller lorsqu'ils ne comprendront pas certains points, ainsi que moi-même, et donc tu souhaitais reprendre sur...
On va reprendre en fait sur quelques exemples de brevets qui sont pour le moment acceptés en Europe et comme je viens de le dire qui peuvent pas encore être vraiment appliqués parce que le droit l'interdit encore bien heureusement et on se bat pour que ça reste ainsi et qui mettent bien en lumière en fait ce qui empêche un brevet en fait il empêche d'autres personnes d'utiliser des programmes d'ordinateur et de les commercialiser. Il y a par exemple un brevet sur les cartes de crédit électroniques. Et ce brevet couvre tous les programmes d'ordinateur qui contiennent cette fonctionnalité qui permet à un utilisateur de payer plusieurs articles choisis dans un magasin en ligne sur Internet. Au lieu de payer à chaque fois qu'il choisit des articles sur une page, il en choisit plusieurs et il paye à la fin. Et bien un brevet qui couvre toute cette méthode commerciale et qui en fait menace tout magasin en ligne de devoir régler des redevances aux détenteurs de ce brevet qui n'est autre que Sun Microsystems, une société américaine, un éditeur de logiciels des États-Unis.
C'est-à-dire que, pour simplifier, on a le droit, il y a quelqu'un qui possède ce droit de faire des ventes en ligne. Donc si n'importe qui utilise ce système de vente en ligne, il devra lui payer des royalties.
Exactement. Alors, en général, lorsque un détenteur de brevet dit à quelqu'un qui veut développer un logiciel qui entre en violation de son brevet, ce détenteur lui dit soit vous me payez une redevance qui est fixe, un prix fixe, soit lorsque vous développerez pour cet exemple un magasin en ligne, vous me verserez une partie de tous vos bénéfices. Alors ça c'est peut-être acceptable pour certaines grandes sociétés qui ont les moyens de s'acquitter de telles sommes. Ça l'est moins pour je venais de l'expliquer pour les développeurs de logiciels libres, pour les petites et moyennes entreprises.
Oui, imaginons les comme ça se fait maintenant beaucoup en campagne, des producteurs de légumes ou autres qui vendent sur Internet et qui sont payés par carte bleue, ils devraient payer donc à ces détenteurs la possibilité de pouvoir utiliser un mode de paiement sur Internet, ce qui là frise la folie.
Et ce qui est encore plus fou, c'est que on peut payer en fait 5% de ses bénéfices aux détenteurs d'un brevet, mais en général il n'y a pas qu'un seul brevet qui couvre tout un logiciel. Prenons l'exemple d'une boutique en ligne. On en a vu un sur l'utilisation de cartes de crédit. Il peut y avoir également un brevet sur la fourniture d'informations commerciales. Lorsque un consommateur demande demande à acheter quelque chose, on peut lui fournir une offre commerciale lui disant « ben tiens, vous avez commandé ça, vous serez peut-être intéressé par cet autre article ». Eh bien, un brevet également là-dessus. Donc, vous voyez, ça fait déjà deux brevets sur une boutique en ligne. Imaginons que vous voulez créer une boutique en ligne, vous devrez déjà payer 5%, plus 5%, 10% de votre bénéfice là-dessus. Maintenant, il y a une très belle illustration de cela, ce que vous pouvez aller voir sur webshop.ffi.org, webshop, webshop.ffii.org, qui dénombre pas moins de 20 brevets sur une boutique en ligne comme ça. Donc 20 fois 5%, vous voyez déjà que vous ne réalisez plus aucun bénéfice sur votre boutique en ligne. Et s'il y a 21 brevets, votre boutique en ligne deviendra complètement non profitable pour vous.
Alors pour être malin, j'imagine que ces détenteurs de brevets vont essayer de jouer les gentils pour peu que cela passe et vont proposer des forfaits. Alors nous vous proposons le forfait 10 brevets qui vous permet quand même d'avoir votre commerce, mais de passer par nous. Mais ça c'est aux États-Unis pour l'instant, hein. Ce n'est pas en Europe. C'est-à-dire que actuellement, par exemple, l'utilisation d'une vente en ligne par carte bleue, si elle est brevetée, on payera si un citoyen américain l'utilise pour acheter le produit. Non, mais non. On la payera pas pour un Européen. On en est où exactement là-dessus? Internet est-elle encore dans des zones internationales?
En fait, tout se passe au niveau du créateur de la boutique en ligne. S'il est européen, il pourra exercer son métier assez librement. S'il est américain et que la boutique en ligne est hébergée par un ordinateur aux États-Unis, il peut être inquiété par les détenteurs de brevets.
Je voulais te laisser continuer là-dessus, justement, sur la présence américaine. On l'a bien compris, là-bas, le brevet est passé. Donc les Américains vont essayer enfin, les Américains, on s'entend, hein, certaines grosses entreprises américaines qui ont vite compris leurs bénéfices vont essayer de faire passer cela en Europe. Et cela amène des joutes incroyables, du lobbying, des plaintes aussi pour harcèlement. On pourra en reparler ensemble. Bref, on est en train d'appuyer de toutes parts pour faire passer ce projet, même dans des dossiers beaucoup plus gros. On met ce petit dossier au fond et on le traite, on essaie de le traiter avec la pêche, avec d'autres. Et il y a des pays qui font de la résistance, notamment la Pologne et peut-être aussi l'Allemagne. Je te laisse commencer par ce que tu veux.
Effectivement, tout ce qu'on vient de raconter sur les brevets est complètement d'actualité aux États-Unis. La presse a relaté depuis pas mal de mois énormément de procès. Microsoft lui-même est mis en procès pour avoir utilisé dans son navigateur internet ce qu'on appelle des plugins, ces petites fenêtres qui vous permettent par exemple de suivre une vidéo ou d'écouter un son ou de voir une animation. Comme il y a un brevet qui protège ça et qui a été développé par une société qui ne développe pas de logiciel, qui fait juste que déposer des brevets. Eh bien, cette société a dit à Microsoft, vous faites ça dans votre navigateur internet, maintenant vous nous devez de l'argent. Donc il y a pas mal de procès comme ça qui sont en cours aux États-Unis et qui ont défrayé la chronique. Et on risque de tomber dans le même cas de figure en Europe si un jour les brevets logiciels sont légaux en Europe. Donc en ce moment, on est dans le cadre d'une directive qui est en cours de discussion au niveau de l'Union européenne. Et ma foi, il y a énormément de rebondissements et des enjeux incroyables autour de cette directive. De l'avis de plusieurs parlementaires, on n'avait jamais vu autant de mobilisation et d'intérêt citoyen autour d'une directive européenne. Il y a énormément d'utilisateurs d'informatique, de programmeurs, de petites et moyennes entreprises qui ont bien vu quels étaient les dangers pour elles, qui se sont mobilisés, qui ont averti les parlementaires de ces dangers. C'est ce qui a conduit d'ailleurs le Parlement, comme je le disais, à adopter de très bons amendements limitant la brevetabilité et empêchant les brevets logiciels en septembre 2003. Alors, je vais peut-être revenir un peu sur l'historique de cette directive. Donc, On part en fait du droit qui régit les brevets en Europe, qui a été élaboré en 73 par la Convention de Munich et qui clairement disait les programmes d'ordinateur en tant que tels ne peuvent pas être brevetables, comme ne le sont pas les mathématiques, les dessins, toutes ces choses qui mettent en fait en jeu des principes intellectuels qui font partie de la connaissance commune de toute l'humanité et qui peuvent pas être monopolisées par quelques intérêts particuliers. Donc, jusqu'ici, les brevets sont interdits en Europe. Et puis, certains intérêts ont bien vu que ça les limitait, que cette interdiction les limitait. Ces intérêts, ben, on l'a évoqué avec Nicolas, ce sont les offices de brevets qui distribuent des brevets et qui doivent être rentables, donc qui ont tout intérêt à accepter tous les brevets et à voir la brevetabilité s'étendre à des sujets auxquels elle n'avait pas, qui ne la touchaient pas, comme les logiciels, comme les activités commerciales. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est que les logiciels sont un très bon moyen de faire breveter toute activité intellectuelle. De plus en plus, l'informatique s'occupe de beaucoup de choses, et en brevetant des logiciels, on peut arriver à breveter des méthodes intellectuelles. On peut penser par exemple à des méthodes éducatives. Lorsque l'on brevette un logiciel qui permet de faire un QCM, un questionnaire à choix multiples, c'est une méthode éducative que l'on monopolise. Et donc, tous ces intérêts qui auraient aimé voir les logiciels entrer dans le domaine du brevetable se sont mobilisés pour réformer le droit européen. Alors, ils ont fait un premier essai en 2000 pour carrément supprimer cette interdiction de brevetage des logiciels de la Convention sur le brevet européen. Fort heureusement, cette tentative a échoué grâce à une résistance publique qui a semblé assez inattendue. Et donc, il a fallu trouver d'autres moyens. Cet autre moyen, en fait, ça a été de passer par l'Union européenne et de proposer une directive. Alors, c'est la directive qui est actuellement en discussion et elle a été présentée de très belle manière. On a dit que c'était une directive qui visait à harmoniser les différentes législations nationales et à prévenir des dérives de l'Office des brevets qui, contre la loi, on l'a vu, a accepté des brevets logiciels. Donc, c'était tout à fait ce que l'on demandait et tout allait bien. Seulement, en inspectant un peu le texte, on se rendait compte que le contenu du texte était complètement à l'encontre de ses bons objectifs et qu'il autorisait en fait bel et bien la revendication de brevets sur n'importe quel logiciel. Et même en regardant d'un peu plus loin, et ça c'est assez drôle, on a vu que le document, qui était un document Word présenté par la commission, avait été en fait rédigé par la BSA. La BSA, c'est la Business Software Alliance, qui est une coalition d'entreprises. Vous avez peut-être entendu certaines de ces publicités sur des radios publiques dénonçant le piratage dans les entreprises et appelant les utilisateurs de logiciels à les avertir lorsqu'ils utilisaient dans leur entreprise des logiciels piratés. Donc la BSA, c'est un regroupement d'entreprises, la plupart américaines, et il faut bien le dire, un peu contrôlé par Microsoft. Et c'est donc cette semaine BSA qui a rédigé le brouillon du projet de directive européenne. Alors, on peut se dire, tiens, qu'est-ce que les Américains viennent faire dans une directive qui concerne l'Europe ? Eh bien, en fait, il faut...
Oui, tiens, qu'est-ce qu'ils viennent faire ?
Eh ben, il faut savoir que dans les dizaines de milliers de brevets déposés à l'Office européen des brevets, en fait, il y a quelques miettes du gâteau qui sont détenues par des entreprises européennes. La grande majorité, les trois quarts des brevets, sont détenus par des sociétés états-uniennes ou japonaises. Donc si cette directive autorisant les brevets logiciels passait, en fait ceux qui retiraient le plus grand bien de cela, ce ne seraient pas les sociétés européennes, même les grandes sociétés qui ont le moyen de déposer des brevets, ce seraient plutôt les détenteurs de ces brevets qui sont américains ou japonais. Alors on peut continuer dans le chemin qu'a pris cette directive. Je l'avais évoqué tout à l'heure, le Parlement européen a très bien travaillé dessus. Pendant plus d'un an, il y a plusieurs comités qui ont été chargés d'émettre des avis et qui ont littéralement démoli la proposition de la Commission en disant qu'elle autorisait le brevetage des logiciels, que ça conduisait à un monopole sur en fait les idées et les méthodes intellectuelles et qu'il fallait absolument amender ce texte en proposant des limites très claires. Le comité économique social européen, le comité des régions, une commission du Parlement à l'industrie, une commission du Parlement à la culture qui était en 2003 présidée par Michel Rocard qui est très présent sur le sujet et qu'on aura l'occasion de, d'entendre une de ses interventions à la fin de l'émission. Donc toutes ces instances consultatives ont averti du danger du texte de la Commission, ce qui a conduit le Parlement européen, finalement, à voter en séance plénière le 24 septembre 2003 des amendements approuvant ces avis et posant des limites claires interdisant les brevets logiciels. Ensuite, c'était donc au tour du Conseil des ministres de l'Union européenne de donner, d'exprimer son avis, et le texte modifié par le Parlement leur a été envoyé, avec déjà une note de la Commission qui stipulait quels amendements leur semblaient acceptables. Et alors, seuls les amendements approuvés en fait par des gens qui étaient assez proches du lobby pro-brevet, qui avaient adopté des amendements que je qualifierais de cosmétiques, qui n'étaient pas vraiment essentiels, ont été jugés acceptables. Tous les amendements essentiels qui définissaient des limites claires ont été jugés carrément inacceptables. Et on se retrouve avec un texte, en fait, qui est très vague. Alors qu'on avait un objectif de clarifier le droit, on se retrouve avec un texte qui dit « Eh bien, vous avez le droit de breveter un logiciel à partir du moment où il entre, il a fait intervenir une contribution technique. » Et qu'est-ce qu'une contribution technique ? Ben, c'est une contribution dans un domaine technique. Alors le Parlement européen, lui, avait très bien défini ça. Il avait dit, ce qui est du domaine technique, c'est lorsqu'on, il a fait référence aux forces contrôlables de la nature. C'est un peu du jargon, mais tout ça pour dire qu'on a le droit de breveter les choses qui sont physiques, mais pas les idées pures. Et le Conseil, donc, a complètement supprimé ça et s'est retrouvé avec une définition qui se renvoie à elle-même et qui ne veut plus rien dire et qui, ma foi, laisse passer tout et n'importe quoi. Alors ceci, ma foi, a été approuvé, on l'avait dit avec Nicolas, par le Conseil dans un accord politique en mai dernier, mais le 18 mai 2004, et dans des conditions qui sont assez surprenantes. En fait, à l'époque, c'était l'Irlande qui présidait l'Union européenne, le Conseil des ministres de l'Union européenne. Et alors il faut savoir que l'Irlande est un peu un paradis fiscal pour tous les brevets logiciels, que il y a très peu de taxes sur les gains en fait rapportés par ces brevets et que bon nombre de sociétés, Microsoft la première, ma foi, délocalise toute sa propriété intellectuelle, c'est-à-dire dépose ses brevets en Irlande et les fait valoir partout ailleurs. On peut d'ailleurs remarquer que à l'époque, le site de la présidence irlandaise était sponsorisée par Microsoft. Cela donne peut-être une idée des pressions qu'il y avait sur le Conseil des ministres pour adopter cela. Lors de cette séance où ça a été adopté, il y a d'ailleurs eu quelques petits scandales. Le Danemark opposait certaines réticences et puis la présidente irlandaise lui a coupé un peu la parole en lui disant « Alors, quelle est votre position ?» Alors, le représentant danois disait « On sait pas bien. » Il y a eu quelques pays qui ont émis des objections. Alors la présidence lui a coupé la parole en lui disant « Oui, on est là pour décider. Alors, est-ce que vous êtes au moins à 80% d'accord avec ce texte ?» Et sans que le Danemark approuve vraiment, a compté la voix danoise comme approuvant ce texte. Et puis on s'est retrouvé avec une très petite majorité approuvant ce texte et on a clos le débat.
On a les minutes de ce débat.
Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Vous pouvez aller voir sur ffi.fr et il y a le déroulement de cette séance qui est présenté avec tous les petits accrochages. Il y en a d'autres très intéressants. On voit que le ministre néerlandais, alors que son parlement quelques jours avant lui avait dit de ne pas approuver ce texte en l'état, l'a finalement approuvé parce que il a dit il y a une faute, une petite erreur, un bug dans le traitement de texte qui m'a fait parvenir l'avis de mon parlement et j'ai compris le contraire de ce qui avait été marqué.
Il y a une erreur de fax aussi, ça c'est.
Il y a une erreur de fax du côté de la Hongrie, le fax n'est pas passé. Enfin, plein de petites choses comme ça, et finalement, ça conduit pas mal de parlements nationaux à s'énerver un peu qu'on ne prenne pas en compte leur avis, qu'il y ait, ma foi, un véritable déni démocratique. Et le parlement néerlandais, toujours lui, s'est prononcé très clairement en juillet 2004 pour dire à son ministre « Nous ne voulons absolument pas que vous entériniez cet accord. Si jamais cela doit être rediscuté, il faut absolument que vous opposiez à cet accord. »
Et nous allons continuer cette histoire un peu après. On va laisser les auditeurs respirer. C'est assez touffu. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Alexandre avec vous. Notre invité aujourd'hui est Gibus et je vous rappelle que c'est le FFII. .fr, FF2i si vous préférez, .fr pour, en même temps que vous écoutez cette émission, prendre des informations sur Internet. Internet qui est le thème principal, évidemment, de cette journée et surtout la liberté travailler sur son ordinateur parce que bientôt nous serons tous obligés de travailler sur ordinateur, qui que nous soyons, avec Internet ou non, mais en tout cas sur l'ordinateur et c'est bien là que se joue la liberté. Le sujet complexe, vous souhaitez avoir des informations, pour cela vous composez le 08 92 23 95 20. N'attendez pas que ça passe à la télévision sans pouvoir questionner la personne qui vous explique. Son of London aujourd'hui en fond musical Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, notre invité Gibus. Nous continuons ensemble ce tour d'horizon de ce combat. C'est un véritable combat qui a lieu actuellement sur le brevet concernant les logiciels et l'informatique, ce qui nous donne un parfait exemple de ce qu'il se passe pour les OGM ou de ce qu'il va se passer pour les OGM. Gibus ?
Effectivement, ça donne une très belle illustration de ce qui peut se passer au sein des instances de l'Union européenne. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le Parlement néerlandais qui s'était complètement opposé à ce qui avait été adopté par le Conseil, enfin ce qui avait été décidé par le Conseil et qui demande encore à être adopté formellement. D'autres parlements nationaux se sont soulevés contre. On peut noter notamment que le Bundestag, donc le Parlement allemand, a voté une résolution en ce sens, et ce qui est à souligner, c'est que c'est une motion qui rassemble l'ensemble des partis du Bundestag, tant la droite que la gauche que les libéraux, en fait, ont fait une motion commune pour s'élever contre la position qu'avait prise leur gouvernement, malgré leurs recommandations. Et puis, les événements autour de ce texte, en attendant qu'il soit adopté formellement par le Conseil, n'ont pas arrêté de se succéder. Et le fait d'entériner en fait cet accord devait être programmé lors d'une prochaine réunion du Conseil des ministres. Et il faut savoir qu'une fois qu'il y a eu un accord politique, on peut décider d'adopter comme ça sans rediscuter un texte à n'importe quelle réunion des ministres, peu importe le sujet, même s'il n'a aucun rapport avec le dossier. Ça peut se passer à une telle réunion. Et c'est ce qui a failli arriver en décembre de cette année, juste avant Noël, à un conseil sur l'agriculture et la pêche. Alors on se demande ce que les brevets logiciels peuvent faire à un conseil sur l'agriculture et la pêche. Ma foi, rien. Sinon peut-être que les ministres de l'agriculture et de la pêche sont peut-être pas très au courant des enjeux du débat, sont peut-être pas au courant de toute l'opposition qui s'est soulevée face à ce texte.
C'est ce qu'on peut espérer, hein. Sinon ça voudrait dire qu'ils étaient conscients de ce qui allait peut-être se passer.
Totalement, c'est donc un peu une manière de faire passer en douce quelque chose sur lequel énormément de monde commence à exprimer son opposition.
Tu peux expliquer en détail ce qui s'est passé ?
Alors, en détail, ce conseil sur l'agriculture, le 21 décembre 2004, la Pologne, qui avait exprimé en novembre, qui avait fait une réunion très, très bien préparée sur la question, avec des représentants du gouvernement, des associations comme la FFI ou des associations de consommateurs qui sont particulièrement au fait des enjeux des brevets logiciels, puis également des représentants de grandes entreprises polonaises ou étrangères. Il y avait des représentants de Microsoft, de Hewlett-Packard, de toutes les grandes entreprises informatiques qui ont un petit pied en Pologne. Et puis également de l'office polonais des brevets. Donc tous ces gens se sont rassemblés et le gouvernement leur a dit « Eh bien, est-ce qu'à votre avis, le texte qui est passé au Conseil, est-ce que, à votre avis, il autorise les brevets logiciels parce qu'il est présenté comme interdisant les brevets logiciels, mais on nous a dit que lorsqu'on le scrutait bien, c'était tout le contraire. » Et là, tout le monde a été d'accord pour dire que effectivement ce texte autorisait les brevets logiciels. Ensuite, le gouvernement polonais leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que cela vous fait plaisir que les brevets logiciels soient acceptés. Là, évidemment, les grandes sociétés, Microsoft en tête, ont dit eh ben tout à fait, on a besoin de brevets logiciels, il faut ça, sinon on va délocaliser notre production qui est implémentée en Pologne, on va la ramener chez nous, donc on a absolument besoin de brevets logiciels. Et tout le monde, y compris l'office polonais des brevets, c'est à souligner parce que c'est un des rares offices qui, dans ce cas-là, a bien exprimé quels étaient les dangers, tant économiques, parce que c'est un petit peu la mort des petites entreprises, des développeurs de logiciels libres, comme on a vu au début de l'émission, et puis de tous ces gens dans les pays de l'Est ont grandement intérêt à évoluer dans un environnement sans brevet, à pouvoir s'exprimer comme ils le veulent, et à tirer parti, par exemple, des logiciels libres. Et donc tout le monde a dit ben non, il faut absolument continuer à interdire les brevets logiciels.
Oui, on répète que si cela passe, les logiciels libres ne pourraient plus exister.
Exactement. Et donc le gouvernement polonais, prenant en compte cette balance en fait, ces différentes opinions, a dit bon ben il est de notre intérêt de ne pas accepter ce texte en l'état. Et donc au Conseil agriculture et pêche du 21 décembre 2004, ce n'est pas le ministre polonais de l'agriculture qui est allé à cette réunion, c'est un ministre qui faisait partie du ministère de l'informatique, pour faire simple. Et donc tout le monde a été assez surpris de le voir arriver. Lorsqu'au début de la séance du Conseil, on passe en revue en fait les points à adopter sans formalité, le représentant polonais s'est levé, a déclaré que il voulait faire une déclaration à ce sujet pour accompagner le texte, en précisant qu'il n'était absolument pas d'accord et donc qu'il fallait lui laisser plus de temps, qu'il ne fallait absolument pas adopter en l'état le texte du Conseil qui laisse passer les brevets logiciels et qu'il avait besoin d'un délai. C'est donc ce qui a permis de sauver en fait une adoption formelle d'un texte autorisant les brevets logiciels grâce à la Pologne. Et depuis, il y a une grande mobilisation pour remercier la Pologne. Il y a notamment une pétition sur thankspoland.info qui a été remise d'ailleurs hier au gouvernement polonais pour les remercier de leur intervention courageuse, parce qu'il faut savoir qu'ils ont subi d'énormes pressions diplomatiques. On leur a dit bah, vous êtes un nouvel entrant dans l'Union européenne, vous opposez à un texte sur lequel tout le monde a donné son accord et qui ne reste plus qu'à entériner formellement, tout de même vous faites pas preuve d'une très bonne conduite là-dedans, il faudrait peut-être mieux diplomatiquement que vous taisiez un petit peu sur ce dossier pour pas qu'on vous embête sur d'autres dossiers. Et puis d'habitude lorsqu'on a un accord sur un texte il ne reste plus qu'à l'adopter comme ça sans formalité. Normalement on devrait pas revenir dessus.
C'est d'autant plus étonnant que la Pologne avait été plutôt dans l'optique des États-Unis. Pour peu qu'on fasse une globalité concernant par exemple le dernier conflit irakien, c'était le pays ami des États-Unis.
C'est vrai, et c'est par contre beaucoup moins vrai sur ce dossier des brevets logiciels, où la Pologne voit très bien quel est son intérêt là-dedans. La plupart de son industrie informatique prospère à l'aide de petites et moyennes entreprises. Ce sont des acteurs qui interviennent énormément dans le logiciel libre, les Polonais, parce que développer un logiciel libre, ça ne demande pas un grand investissement. Il suffit, ma foi, de connaître des langages informatiques et on peut se plonger dans le développement de logiciels libres. Énormément de petites entreprises se sont créées de cette manière. Donc si la Pologne suivait un peu les États-Unis sur ce dossier, elle serait, ma foi, bien en mal économiquement. Et sur ce dossier-là, elle est complètement en dehors de la ligne américaine, je dirais.
Je ne comprends pas bien ce paradoxe français. La France, si j'ai bien compris, ne s'est pas opposée à ce qu'on puisse breveter les logiciels à travers M. Devedjian. En même temps, on voit que la France, on le disait au début de cette émission, veut utiliser de plus en plus de logiciels libres.
Tout à fait, il y a une très grande contradiction là-dedans et en fait le ministère français est très embêté parce qu'effectivement il a reçu un très grand nombre d'avertissements lui disant que, ma foi, avec le texte sur lequel il avait donné son accord, il ne pourrait pas développer toute cette politique de mise en œuvre de logiciels libres qui avait été décidée. On se souvient de Monsieur Raffarin qui avait annoncé, je crois que c'était au printemps dernier, l'utilisation de logiciels libres dans l'administration, ce qui lui permettait d'économiser jusqu'à 50 millions d'euros dans les frais d'administration et de réduire le déficit public de cette manière. Donc, averti de cette contradiction manifeste, le gouvernement français en fait émis une déclaration un peu hypocrite, disant que selon lui, justement, le texte auquel il avait donné son accord interdisait bien les brevets sur les logiciels purs, ne permettait des brevets que sur de véritables inventions matérielles, utilisant un logiciel, mais sur des inventions bien matérielles, et que selon lui, ce texte n'était pas dangereux, et que de toute façon, s'il l'était, il serait très vigilant à ce que déciderait le Parlement européen en deuxième lecture. En fait, pourquoi le gouvernement français a-t-il pris cette position? C'est parce que toute sa position là-dessus lui a été dictée directement par l'INPI, qui est donc l'institution qui délivre des brevets en France, et l'INPI dépend du ministère de l'Industrie, et ce sont eux qui ont rédigé en fait la proposition de texte et rédigé l'avis de la France là-dessus. Et il est très difficile pour le ministère de déjuger un service qui dépend de lui, même si, ma foi, il a reçu depuis confirmation que ce qu'on lui avait conseillé n'était peut-être pas dans son intérêt et allait à l'encontre d'autres choses sur lesquelles il s'engageait par ailleurs.
Est-ce qu'on sait avec quoi les ordinateurs à 1 €? Alors je rappelle, il y a un plan qui a été lancé, tout comme le permis de conduire, pour lesquels l'étudiant ou celui qui veut passer son permis va pouvoir payer 1 € par jour pour avoir un ordinateur. Est-ce qu'on sait quels sont les outils qui sont donnés avec ces ordinateurs? Est-ce qu'on sait si c'est Microsoft, un XP ou un Windows 2000, ou si on laisse le choix à l'étudiant?
Alors effectivement, sur ces ordinateurs, il y en a une grande partie qui est proposée avec Linux installé dessus, c'est-à-dire un système d'exploitation comme Windows qui vous permet d'utiliser votre ordinateur, qui est libre, et ça permet de faire des économies substantielles effectivement sur l'achat de logiciels qui équipent un ordinateur lorsqu'on l'achète comme ça. Et donc, si les brevets logiciels sont acceptés, il sera très difficile à la France de vendre à 1 € aux étudiants des ordinateurs équipés de Linux. Je crois qu'il y a également des ordinateurs équipés de Windows. Je suis pas spécialiste de l'offre de ces ordinateurs à 1 €. Il y a un mélange des deux, permettant tout de même de faire des économies avec des logiciels libres parfois.
Alors, on a entendu de la part de Bill Gates récemment, je crois que c'était il y a environ 2 mois, une attaque en force contre les logiciels libres et contre le fait que, en disant en fait que c'était la fin du marché, la fin de la découverte, la fin de la réussite. Est-ce que tu pourrais nous, en gros, hein, j'imagine que tu n'as pas le discours en tête, mais en gros, nous donner les arguments qu'opposent tous ces gros commerciaux de l'informatique aux logiciels libres?
En fait, ce que proposent ces grandes entreprises de l'informatique, c'est à double sens. Leur discours officiel est de dire que, bon, d'accord, on peut être protégé par le droit d'auteur pour les logiciels qu'on écrit, et cela empêche le plagiat tel quel de logiciels. On n'a pas le droit de copier un logiciel tel quel. Mais toutes les idées qui sont parfois brillantes, qui sont derrière ce développement de logiciels, elles ne sont pas protégées. Et donc, il leur faut une protection par le brevet pour assurer, ma foi, la protection de ces idées originales. Alors on a vu tout à l'heure avec l'exemple de la littérature que la frontière est très difficile à tracer entre une idée générale et son expression en tant que telle. Et si on analyse en fait tout l'historique de la jurisprudence en matière de protection des programmes informatiques, on s'aperçoit que c'est une question qui revient tout le temps, et que tout le temps on a décidé que il fallait absolument garantir le droit des auteurs par le copyright et absolument pas par le brevet, parce que ça risquait de mener petit à petit à la monopolisation des idées, et que la frontière était à tracer là entre ce qui était une idée et ce qui était une expression pure, et que le droit d'auteur prévalait. Alors, ce que ces grandes entreprises, par contre, ne disent pas, c'est qu'elles, effectivement, elles ont tout intérêt à breveter leur logiciel, puisque cela leur donnerait la mainmise sur tous les programmes qui peuvent être développés dans la branche dont ils s'occupent. Et effectivement, c'est un moyen anticoncurrentiel très important qui leur permet d'éliminer la concurrence des petites entreprises, pour être clair, et de s'assurer le monopole sur toute une branche de l'industrie informatique.
Pour revenir sur un dossier actuel, on peut parler de la même concurrence que celle entre Sony et Apple actuellement concernant les baladeurs MP3.
C'est un petit peu ça, effectivement. Sony et Apple se battent pour avoir le contrôle de la musique digitalisée que vous écoutez sur vos petits baladeurs MP3. Ils ont chacun mis en œuvre de leur côté des protocoles, des formats permettant de réduire la taille de ces petits fichiers musicaux électroniques. Et chacun se dit, ma foi, propriétaire de ce type de compression, d'encodage, et veut absolument tout ça. Pourquoi? Pour avoir le contrôle de ce qui peut être diffusé comme information électronique.
Et une fois de plus, on relève ce paradoxe français, car je ne connais pas d'autres pays, il y en a peut-être d'autres évidemment, mais en France, là par exemple, ils viennent d'être attaqués, Sony et Apple, ils viennent d'être attaqués. On sait que ils avaient déjà été jugés pour des verrous de sécurité sur des CD. Alors ce n'était pas eux exactement, mais c'était les producteurs, les distributeurs, les maisons de disques qui avaient été jugés parce qu'on pouvait pas lire ça sur tous les lecteurs. Donc on a l'impression que le milieu associatif ou des entreprises françaises est en train de se battre contre ça, et que d'un autre côté, le gouvernement ne les écoute pas du tout et va vers son intérêt. Alors que dans ce même gouvernement, les élus, les différents maires, eux sont contre. Enfin, c'est vraiment un fouillis, pas possible.
Tout à fait. Dans tous ces dossiers, on se rend compte que plus la démocratie se rapproche du citoyen, plus, ma foi, elle a conscience des dangers pour la société en général, plutôt que de se préoccuper de l'intérêt de grandes entreprises. Et au gouvernement, lorsque Monsieur Thompson vient parler au ministre pour lui dire « Attention, si moi j'ai conclu un accord avec Sony, c'est peut-être pas le cas, hein, je cite ça en exemple illustratoire. Lorsque j'ai convenu un accord avec Sony utilisant leur format de fichiers musicaux sur mes petits baladeurs, vous comprenez que ça met en péril nombre d'emplois dans ma société et qu'il faut absolument que vous alliez dans mon sens. » Et là, le ministre a un cas de conscience, et est-ce qu'il se préoccupe plus de l'intérêt de la société en général ou de ses intérêts particuliers là? Eh bien, c'est à lui de trancher, et malheureusement, il tranche souvent dans le sens des grandes entreprises.
On parle beaucoup des États-Unis, on parle aussi de l'Europe, on pourrait s'arrêter sur la Chine, savoir ce qu'il en est en Chine. On a longtemps dit qu'ils étaient des suiveurs, c'est-à-dire qu'ils copiaient des technologies pour après vendre dans les pays ces technologies effectuées, sont jamais créées. Maintenant, ils créent, enfin je dis maintenant, depuis quelques années, ils créent, notamment une nouvelle norme de DVD, de lecteur DVD. Entre autres, chez eux, comment est-ce que ça se passe ?
Mais les Chinois sont en général de très bons innovateurs. On les accuse souvent d'être des copieurs. Textuellement, les États-Unis les ont souvent accusés de voler leurs inventions. Alors que dans ces domaines des nouvelles technologies, ce sont de très bons innovateurs. On peut par exemple citer, vous avez cité l'exemple du norme pour le DVD. Ils sont également en train de créer leur propre distribution de Linux, donc un logiciel libre, qu'ils adaptent, ma foi, pour leurs propres besoins, qu'on peut facilement imaginer. Ils ont besoin que tout soit écrit en caractère chinois, et il y a des petites adaptations à faire. Et grâce au logiciel libre, ils sont tout à fait capables de faire eux-mêmes ces adaptations, et ils sont en train de proposer une distribution Linux spécialement pour la Chine. Donc, en l'occurrence, ils ne copient pas, ils ne volent aucune invention. Ils se servent, ma foi, fois du fait que Linux soit un logiciel libre, que les idées qui sont dedans soient librement accessibles pour utiliser ces idées, les améliorer. Par exemple, il y a des idées, une idée qui est de placer tout ce qui est particulier à un langage, à une langue, le français, l'allemand, etc., dans des petits programmes à part. Eh bien, ils se servent de ça pour dire, eh bien, nous, on va placer tous nos caractères chinois comme ça, et ça sera utilisable partout sur les ordinateurs.
Mais quant aux brevets et aux droits d'auteur en Chine ?
Alors, la position de la Chine là-dessus est assez spéciale, et en fait, ils jouent de leur rapport de force.
Oui, c'est ce que j'allais dire, 1,3 milliard de personnes.
1,3 milliard de personnes, plus de 50% de la dette des États-Unis détenue par la Chine. Donc, alors là, je vais quitter un peu le domaine des logiciels pour parler uniquement de brevets, mais sur des choses complètement matérielles. Il y a eu des accords lorsque la Chine est entrée à l'OMC pour transférer, ma foi, pour conclure des accords transférant la propriété intellectuelle d'inventions faites aux États-Unis pour les transférer en Chine pour que l'industrie chinoise soit capable de se développer. Donc on a dit aux Chinois, ben voilà, on a des brevets sur ces machines-là, et on vous les vend. Donc les Chinois ont déboursé pas mal d'argent là-dessus, et puis se sont rendus compte que tous ces brevets, en fait, couvraient des choses qui étaient complètement triviales, que l'on connaissait depuis des siècles, et que, ma foi, ils ne valaient pas l'ombre d'un yen qu'ils avaient dû payer pour ces licences. Et fort de leur poids démographique et pécunier sur la dette des USA, ils ont dit, bah, vous ne vous refaites plus ça, tous vos brevets, ma foi, on s'en fiche complètement, et on prend vos inventions, on développe nos industries dessus, mais ne nous réclamez pas de payer des choses, de payer de l'argent pour des choses qui n'en valent pas la peine.
Ils doivent regarder de très près ce qui se passe quand même actuellement en Europe.
Tout à fait. Ils regardent de très près, surtout que leurs voisins japonais sont, eux, dans un modèle comme les États-Unis où les brevets sont autorisés sur les logiciels. Ils regardent de très près ce qui se passe dans le domaine du logiciel libre, on l'a vu. Et ils ne sont pas du tout prêts à adopter une législation autorisant les brevets. Il faut signaler aussi que les États-Unis eux-mêmes ont vu une grande opposition aux brevets logiciels se lever avec des organisations institutionnelles, la Federal Trade Commission, la Commission fédérale au commerce, qui a émis un rapport fin 2003 conseillant aux États-Unis de bien revenir sur, ma foi, la brevetabilité des logiciels, qui autorise pas mal de dérives à l'heure actuelle. Et les États-Unis regardent de très près le débat qui se déroule actuellement en Europe. Car si l'Europe finalement décide de ne pas autoriser les brevets logiciels, ça sera un très bon exemple à suivre pour les États-Unis, éviter tous ces procès et ces dérives qu'ils voient à l'heure actuelle.
Et ça nous amène jusqu'à quand ? Quelle date ?
Ça, c'est la grande inconnue, et on va peut-être pouvoir en parler dans très peu de temps avec notre correspondant à Bruxelles, si on arrive à le joindre. Parce qu'en fait, dans cette directive, je vais peut-être reprendre en fait mon récit de ce qui s'est passé sur cette directive européenne. Il y a très peu de temps, le 2 février, le Parlement européen, qui a vu que le Conseil s'embourbait à ne pas ratifier un accord qui était complètement extrémiste, a demandé à la Commission européenne de lui resoumettre le texte, de repartir à zéro, de prendre en compte tous les nouveaux débats qui avaient eu lieu autour de l'affaire, de tous les parlements nationaux qui s'étaient soulevés, de tous les rapports, celui que je viens de citer aux États-Unis, mais également des rapports de Deutsche Bank Research en Europe, qui est un institut de recherche économique, qui a préconisé à l'Europe d'adopter une législation complètement sans brevet le logiciel. Donc le Parlement a demandé à la Commission de prendre tout ceci en compte et de lui resoumettre le texte, surtout que depuis que le Parlement avait donné sa position en septembre 2003, il y a eu de nouvelles élections, il y a eu de nouveaux 10 nouveaux pays qui sont rentrés dans l'Union européenne, qui ont un grand intérêt dans le dossier et qui n'ont pas encore pu s'exprimer clairement au Parlement. Donc ils ont demandé à redémarrer de zéro. Et aujourd'hui même, en fait, La conférence des présidents, qui regroupe les présidents de tous les partis politiques présents au Parlement, doit officiellement demander à la Commission ce qui avait été décidé le 2 février, c'est-à-dire de recommencer à zéro. Donc on espère que ça va avoir lieu dans l'après-midi. Et que la Commission ensuite acceptera de repartir à zéro, ce qui bénéficiera à tout le monde finalement, puisque ça enlèvera au Conseil, ma foi, toute leur pression diplomatique qu'ils ont en ce moment, et ça leur permettra de travailler réellement sur le fond du problème, dans un environnement beaucoup plus sain.
Ce qui va nous amener, après cette respiration musicale, Gibus, au lobbying, qui est un terme qu'on a du mal à utiliser en France et qui pourtant est très présent. On a vu différents documentaires concernant ce lobbying au Congrès américain, par exemple. C'est très commun à Bruxelles et nous allons en parler ensemble sur Radio Ici et Maintenant. Vous composez un numéro de téléphone pour avoir plus d'informations, pour revenir sur un point que vous n'avez pas compris, pour apporter votre expérience, le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, Alexandre avec vous. Nous sommes avec Gibus, ff2i.fr.org pour la version internationale, .fr pour la France, ffii.fr. Comme ça, vous pouvez suivre l'émission en quelque sorte en direct, avoir les dossiers sous les yeux et poser vos questions. 08 92 23 95 20. Ne venez pas vous plaindre après si vous ne comprenez pas. Nous, on a invité la personne qui pouvait répondre. Après, c'est vous qui voyez. Gibus, donc maintenant, on va parler de toutes ces pressions qu'on peut trouver à Bruxelles, de la manière dont ça se passe, de la manière dont on arrive à faire pression sur des gouvernements, et aussi comment vous avez été accusé, vous, de harcèlement.
Oui, c'est tout à fait remarquable d'ailleurs ce que l'on peut faire au niveau des institutions européennes. C'est intéressant de voir que, ma foi, une association comme la nôtre, qui est une association avec la plupart des gens qui sont des bénévoles, arrive, ma foi, à faire peser les décisions au niveau des instances européennes. Face à des lobbies qui sont très bien organisés et beaucoup plus classiques. Il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a des centaines de personnes qui sont payées à plein temps par les entreprises pour résider autour des bâtiments des institutions, pour aller rencontrer les députés, les ministres, les commissaires qui sont à Bruxelles, pour leur parler, ben, ma foi, au détour d'un repas, de ce qui pourrait avoir du poids sur l'activité de ces entreprises dans les décisions qui sont prises dans l'Union européenne. Et ma foi, il y a énormément de gens donc qui sont payés par leur entreprise pour aller chercher, par exemple, les députés lorsqu'ils, tout fraîchement élus, ils arrivent à Bruxelles. On vient leur proposer, ma foi, de les aider à trouver une école pour leur enfant, d'avoir un partenaire de tennis pour eux, pour leur épouse, etc. Et donc, les politiciens sont peut-être un petit peu influencés de manière permanente par tous ces gens payés à faire du lobbying. Et face à cela, eh ben, nous, on essaye de leur présenter des dossiers, des arguments. On leur court un petit peu après dans les couloirs du Parlement pour leur donner des dossiers, des choses comme ça, pour leur faire prendre conscience de ce qui se passe pour la plupart des citoyens sur des sujets tels que la directive sur les brevets logiciels. Une anecdote amusante, c'est la rapportrice du rapport sur cette directive au Parlement européen en 2003, qui était une travailliste anglaise, qui était complètement très très liée au lobbying pro-brevet et aux gens qui travaillent dans les offices de brevets, et qui s'est plaint lors de la séance plénière où a eu lieu ce vote sur les brevets logiciels d'avoir subi du harcèlement de la part qu'elle n'avait jamais connu dans toute sa carrière d'eurodéputée, ma foi, de la part de scientifiques ou de gens du milieu associatif qui venaient lui donner des lettres et des dossiers dans les mains. Alors, voyez,
c'est une honte.
Bah, quand on essaye de donner des lettres aux eurodéputés, c'est du harcèlement. Quand on les invite à manger, c'est du lobbying et c'est accepté.
Vous n'avez pas envie d'utiliser les mêmes armes ?
Non, je crois pas. On a une grande de force, c'est que il nous suffit en fait d'établir des choses assez factuelles sur quels sont les dangers, qu'est-ce qu'il se passe si les brevets logiciels sont acceptés en matière économique, en matière un peu plus philosophique, je dirais, sur les idées, pour arriver à convaincre les gens. Alors que de l'autre côté, on est obligé de plus chercher des arguments qui souvent tiennent pas la route. On s'en rencontre avec les textes qui sont adoptés, qui sont pro-brevets et qui finalement donnent des définitions qui se renvoient à elles-mêmes, ne sont pas claires du tout. On patauge, je dirais, lorsqu'on essaye de justifier les brevets logiciels, alors que lorsqu'on s'y oppose, on a avec nous, ma foi, plein d'arguments assez raisonnables.
Donc vous ne pouvez plus communiquer.
On peut communiquer fort heureusement. Cette députée travailliste n'était pas la seule députée et il y a au contraire un très grand nombre d'attachés parlementaires qui nous ont remerciés de leur avoir fourni des informations. Les députés auxquels ils sont attachés traitent un nombre considérable de dossiers et ont bien sûr pas tout le temps nécessaire pour se plonger dans chacun. Et donc ils sont très demandeurs d'informations. Et la plupart de nos actions, en fait, consistent en cela, à appeler à écrire des lettres aux ministres, aux députés, qu'ils soient nationaux ou européens, pour les avertir, ma foi, de faits sur la question. Et cela marche assez bien, puisque Moi-même, par exemple, en France, j'ai été invité le mois dernier à l'Assemblée nationale par une commission parlementaire à venir leur expliquer quels étaient les enjeux du problème sur les brevets logiciels. Michel Rocard lui-même est très très ouvert à les informations qu'on peut lui apporter. La plupart des députés ont en fait une grande envie qu'on leur apporte des informations, plus que d'être lobbyisés, je dirais, de manière traditionnelle, dont ils ne sont pas dupes.
Ouais, il y a deux choses qui m'inquiètent. Tout d'abord, 250 personnes pour la manifestation qui a eu lieu aujourd'hui, donc ce jeudi 17 février. Ça ne me paraît pas énorme, j'ai l'impression qu'une fois de plus on va se réveiller après quand il sera trop tard. Je te demanderai de revenir dessus dans quelques instants. Et cela m'amène évidemment à la Constitution européenne. Est-ce qu'il y a dans les textes de cette Constitution des éléments relatifs à ce brevet des logiciels?
Oui. Il y en a un dans la charte des droits qui est dans la deuxième partie de cette constitution. Il y a une ligne et demie qui dit simplement cela: la propriété intellectuelle doit être protégée. Alors on peut s'étonner quand même que cela figure dans une constitution. Une constitution, c'est fait pour protéger le citoyen, pour définir un cadre de loi, de fonctionnement, je dirais, d'instances politiques pour protéger le citoyen. Et là, c'est pas le citoyen qu'on veut protéger, c'est quelque chose qui s'appelle la propriété intellectuelle, dont on ne sait pas bien d'ailleurs ce que c'est, qui couvre plein de choses, aussi bien le droit d'auteur que les brevets, que le dépôt de marques, les dessins d'architectes, etc. Et c'est elle qui devrait être protégée, comme ça. Et c'est une phrase comme ça dans la Constitution, dont on peut s'étonner donc qu'elle figure ainsi. Et il y a un deuxième point dans cette Constitution qui est assez dangereux par rapport à ce qu'on vit au sujet de cette directive européenne sur les brevets logiciels, c'est qu'elle ne donne presque pas plus de pouvoir au Parlement européen, alors qu'on voit très très bien dans le déroulement de cette directive qu'il y a une opposition forte entre le Parlement européen élu démocratiquement et le Conseil où sont présents en fait les ministres de chaque État qui défendent un petit peu leur bout de gras pour ne pas que les intérêts de leur État respectif soient en danger. Et c'est toujours le Conseil qui a un poids beaucoup plus fort dans les décisions sur les lois européennes, plus que le Parlement. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs le Parlement a demandé un retour à zéro de la directive, parce que si le texte du Conseil était adopté en l'état, il aurait été très très difficile pour lui en deuxième lecture de faire revenir les amendements qu'il avait précédemment votés, de les faire voter, parce que il faut une majorité très très forte en deuxième lecture au Parlement pour imposer des amendements. Donc on voit que on est toujours dans une situation où il y a une instance de l'Union européenne qui est le Conseil, qui est pas vraiment démocratique, qui n'est pas élu démocratiquement, qui a énormément de poids face à une instance démocratique qui est le Parlement, élu par les citoyens.
Et 250 personnes ?
250 personnes, c'est vrai que ça peut paraître peu.
Oui.
Nous sommes tout de même...
Aucun traitement médiatique.
Très très peu de traitement médiatique, et surtout pas, hélas, dans les médias généraux, généralistes, je dirais.
Ouais.
Je remercie ici et maintenant de m'avoir invité dans une radio qui n'est pas spécialisée dans l'informatique ou les choses de la propriété intellectuelle. C'est effectivement très rare que l'on voit le sujet abordé dans les médias généralistes, et c'est bien dommage. Il faut savoir quand même que 250 personnes, on est satisfait de ce chiffre, effectivement, parce que la couverture médiatique générale n'est pas encore au rendez-vous. Ça commence peu à peu, notamment parce que il y a des affaires retentissantes aux États-Unis sur des procès. Il y a eu, il y a pas longtemps, un film de fiction sur France 2 qui présentait les enjeux des brevets logiciels.
De Vincent Maillard, dont j'ai hélas oublié le titre, un excellent film qui passait dans la case
Contre-courant
le vendredi soir, et d'ailleurs tous les vendredis soirs il y a la case Contre-courant, avec un film différent à chaque fois, un reportage. Et là, effectivement, c'est sur le brevetage des logiciels, une sorte de fiction très bien ficelée, et qui nous expliquait comment est-ce qu'on pourrait tous plus tard être contrôlés. D'ailleurs, j'éveille l'attention des auditeurs de Radio Ici et Maintenant sur le site de la radio, qui propose, quand vous allez sur icietmaintenant.com, vous allez sur le site donc de la radio, vous allez sur la page d'ouverture, et vous verrez marqué Google Big Brother à gauche et Epic 2014. Vous ne connaissez peut-être pas Epic 2014, mais cela nous explique pourquoi est-ce que le New York Times pourrait avoir totalement disparu en 2014. C'est passionnant. C'est une petite animation en flash, et on a fait un lien pour que vous puissiez la regarder et l'apprécier à sa juste valeur. On va vous traduire tout ça en plus, parce que c'est en anglais, donc ne vous inquiétez pas, il y a aussi un excellent texte sur Google, qui est aussi un personnage inquiétant de ce que pourrait être l'informatique plus tard. Je te propose, Gibus, avant de conclure cette émission, je comptais le diffuser à la fin, mais qu'on le fasse maintenant, pour bien comprendre les rouages de ce qu'il se passe à Bruxelles, et quelle est la différence entre ce qu'on peut dire aujourd'hui et ce qui doit être dit sur le terrain politique, avec toutes les parenthèses et les guillemets que cela implique pour ne vexer personne. On va écouter cette allocution de Michel Rocard, qui pour le coup est clairement le porte-étendard de votre combat, de votre lutte, je ne sais pas comment l'appeler. Et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette émission. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2.
Et des logiciels. Je veux commencer en vous souhaitant la bienvenue devant cette commission et en vous disant toute notre sympathie parce que vous vous trouvez à votre corps défendant en charge d'une assez vilaine affaire. Et j'ai demandé à notre président de séance de m'autoriser, mais le commissaire ne m'écoute plus, de m'autoriser à être un tout petit peu plus long qu'il n'est d'usage dans ce questionnement pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes nouveau sur le problème, et la seconde, c'est que la moitié des membres de notre commission sont aussi nouveaux sur le problème. Donc il est peut-être utile de rappeler, et pardonnez-moi, ça fera 6 minutes, il me faut revenir depuis le début. La brevetabilité des logiciels pose problème. Nos amis américains n'ont pas de législation sur le sujet. Leurs agences responsables semblent avoir accordé entre 100 000 et 200 000 brevets de l'espèce, validés par les tribunaux de base dans certains cas. Quelques plaintes sont en attente devant la Cour suprême pour viol de la Constitution, c'est pas mal d'années de prison, c'est pénalement coûteux, viol de la Constitution puisqu'il est un viol de la liberté de circulation des idées, un logiciel n'étant après tout qu'une formule ou un ensemble de formules mathématiques. Et une formule mathématique, c'est une idée exprimée sous forme mathématique. Il semble bien, monsieur le commissaire, que la Cour suprême attende la production du droit européen pour trancher. Nous sommes donc en quelque sorte chargés de faire le droit du monde. Et il faut rappeler que l'enjeu est principalement de préserver la liberté de création et d'usage de logiciels par les chercheurs individuels et les PME, le monde entier. Dans une louable intention, la Commission européenne qui vous a précédé a devant cette situation produit un projet de directive. Le discours de présentation était bon. Ne pas tout permettre, ne pas légitimer certaines outrances américaines, ce discours continue, il est bon. Mais le dispositif du texte ne comportait nulle part cette ligne rouge juridique qui devait séparer ce qui est brevetable de ce qui ne l'est pas. De ce fait, le texte de la Commission était permissif, sans limite claire, ce que d'innombrables experts consultés par vos services et par les gouvernements nationaux vous ont déjà dit et écrit. Notre Parlement s'en est ému. Il a beaucoup lu, travaillé, écouté, fallait comprendre, tout le monde ne savait pas de quoi il s'agissait. Notre Parlement s'est résolu à proposer que cette ligne rouge soit le fait que la production et la mise en œuvre du logiciel en cause requièrent ou ne requièrent pas une consommation d'énergie ou de matière ou l'usage d'outils appelant une compensation financière directe en dehors du travail intellectuel du créateur. Nous avons amendé le projet de la Commission dans ce sens, avec les conséquences collatérales sur d'autres amendements, et ce faisant, monsieur le commissaire, nous avons rallié la confortable majorité de 361 voix contre 157 et 28 abstentions le 24 septembre 2003. Je parle au nom de cette force. Pour produire son projet de directive révisé en vue de la seconde lecture, projet supposé tenir compte des choix du Parlement, la Commission, qui vous a précédé, a attendu que le Parlement soit en vacances pour cause d'élection. Première inélégance. C'est ainsi que le 18 mai 2004, sans avoir ouvert de nouvelles consultations, ni lancé d'expertise sur la validité de la position du Parlement, ni procédé à des auditions publiques solennelles, la Commission a soumis à l'improviste au Conseil une deuxième version de sa directive qui ignore totalement le travail du Parlement, qui en prend pratiquement le contre-pied et durcit même sur quelques points sa vision de la première lecture. Le Conseil l'adopte dans le principe après un débat très court où la position du Parlement ne fut même pas évoquée. Deuxième inélégance. Il faisait finaliser l'affaire en termes juridiques et recueillir formellement les consensus. La présidence irlandaise, j'ai tristesse à dire la phrase qui suit, mais je ne peux pas ne pas la dire. La présidence irlandaise, dont nous ne pouvons pas être insensibles au fait que son website soit sponsorisé par Microsoft, a tenté de s'y employer en classant le dossier dans les points A, prêts pour être adoptés sans débat. Cela, monsieur le commissaire, a été soumis à trois conseils de suite, dont deux conseils pêche. Vous voyez les ministres dans nos pêcheries en train de discuter de la brevetabilité des logiciels. À trois conseils de suite par les présidences irlandaises et néerlandaises. Malgré le silence des gouvernements néerlandais et allemands, qui tous deux ont cependant vu leurs parlements nationaux s'élever avec force contre l'orientation de le gouvernement sur ces sujets, mais n'ont quand même pas bougé, les trois tentatives, monsieur le commissaire, de passer en force en point 1 sur ces sujets ont échoué, grâce au courage du gouvernement polonais, puis avant-hier, vous auriez pu nous le dire, avant-hier, des gouvernements polonais et danois. Procéder trois fois de suite à ces manœuvres d'intimidation et par rapport au Parlement, une troisième inélégance devant cette situation qui ne vous est pas imputable, monsieur le commissaire, je vous en donne acte et je vous en félicite. Mais vous comprendrez que le Parlement européen et son rapporteur, votre serviteur, sentent la moutarde leur monter au nez. Mes questions déboulent de tout cela en rafale. 1. La Commission va-t-elle se convaincre que son texte actuel ne passera plus et suggérer au Conseil des ministres de remettre en chantier la rédaction de cette deuxième version? Deuxième question. La Commission peut-elle nous expliquer en quoi les suggestions du Parlement européen faites en première lecture sont non pertinentes à ses yeux? Nous n'en savons rien. 3. La Commission peut-elle dénier que le texte qu'elle a soumis au Conseil ouvre la possibilité de breveter n'importe quel logiciel? Que fait-elle alors des résultats de l'audition organisée justement par le gouvernement polonais en novembre 2004, où tous les industriels présents concluaient radicalement au contraire? 4e question. Comment la Commission concilie-t-elle la position de ceux des défenseurs de son second texte, qui disent qu'elle se borne à qualifier la pratique de l'Office européen des brevets avec la position de ceux qui affirment que ce second texte ne permet pas la brevetabilité des logiciels? Les défenseurs de ce texte malheureux sont des deux côtés. 5. J'ai bientôt fini. La Commission entend-elle valider les milliers de brevets de l'Office européen des brevets qui concernent déjà l'organisation des mémoires d'ordinateur ou les méthodes commerciales et potentiellement, les demandes sont faites, les méthodes pédagogiques ou des méthodes chirurgicales? 6. La Commission peut-elle admettre que la définition de ce qui est, entre guillemets, technique par, entre guillemets, l'emploi de moyens techniques est parfaitement tautologique et ne peut en aucun cas suffire à distinguer ce qui est brevetable de ce qui ne l'est pas? 7e et avant-dernière question, si aux yeux de la Commission, la mise en œuvre des forces de la nature, énergie-matière, n'est pas pertinente pour constituer la base de cette distinction entre le brevetable et ce qui ne l'est pas, peut-elle, la Commission, nous en proposer une autre, puisque l'objet majeur, l'objet essentiel de l'art de légiférer, c'est de proposer cette distinction? Sinon, on n'a rien à faire. la jurisprudence suffira. Et enfin, monsieur le commissaire, la commission ne considère-t-elle pas qu'il serait temps qu'elle dise au Conseil des ministres qu'elle retire son projet de seconde lecture et se prépare à en refaire un autre pour une meilleure seconde lecture? Merci d'une si grande attention.
Michel Rocard, donc, c'est vrai que le discours, là, a été travaillé, c'est une personne qui sait s'exprimer, évidemment, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce qu'il y a des petites pointes d'humour, ça fait rire, on sent qu'il lance des piques, mais en même temps, est-ce assez virulent?
C'était particulièrement virulent. On n'a pas l'habitude d'entendre au Parlement européen des eurodéputés s'exprimer de manière aussi franche, directe et attaquant de manière virulente le Conseil. Michel Rocard, en la matière, est, comme tu l'as dit Alex, un porte-drapeau tout à fait remarquable pour notre lutte. Et il a extrêmement bien appuyé en fait tous les points litigieux, les déroulements plus ou moins ambigus dans la législation qui sont déroulés, le travail du Parlement européen et surtout le déni qui est fait de la position du Parlement européen par le Conseil des ministres de l'Union européenne. Et on peut que le remercier dans ce sens. Et ça montre bien qu'en fait, eh bien, de simples acteurs du sujet, qui en l'occurrence est l'informatique, peuvent avoir un poids sur la parole que peuvent prendre nos eurodéputés, puisque Michel Rocard est quelqu'un avec qui nous avons énormément parlé avant qu'il fasse son discours et qui a pu présenter là en fait exactement toutes nos revendications.
Gibus, en conclusion et en résumé de cette émission, au-delà du fait d'aller faire un tour sur le site internet ffii.fr, pour vraiment avoir toutes les informations, tous les textes et même cette allocution de Michel Rocard, car le principal, rappelons-le, est de faire circuler l'information. Comment pourrais-tu résumer ces deux heures passées ensemble?
Ben, ce que je dirais qui est le plus important, c'est de voir que sous l'influence de lobbyistes qui font eux-mêmes partie du système de brevets et de grandes entreprises, l'Union européenne est sur le point de commettre une grave erreur, faire passer une loi qui légaliserait les brevets logiciels. Et si cela arrive, vous risquez de le payer cher. L'industrie européenne du logiciel risque de le payer cher en étant victime d'extorqueurs de fonds. Un cartel de grandes entreprises écrasera de plus faibles concurrents. En conséquence, nous payerons tous plus cher pour des logiciels moins bons, moins sûrs, vous personnellement, votre ménage, votre entreprise, votre gouvernement, chacun d'entre nous. Et puis on le réalisera malheureusement uniquement quand on recevra la facture, quand quelqu'un pénétrera par infraction dans votre ordinateur, lira vos courriels, volera le mot de passe de votre compte bancaire, quand votre ordinateur plantera tous les jours, quand vous recevrez énormément de publicité par mail, quand les prix grimperont et que les petites sociétés s'écrouleront, quand des gens perdront leur emploi également. C'est là qu'on s'en apercevra, alors que sans brevet logiciel, l'Europe pourrait faire des économies, stimuler l'innovation, accroître la sécurité et créer des emplois, grâce notamment aux logiciels libres, on l'a vu. L'Europe a une chance énorme de gagner son indépendance vis-à-vis de Microsoft et d'autres grandes entreprises américaines. Cependant, pour cela, eh ben, il faut se battre pour que les brevets logiciels restent interdits en Europe. Et c'est le combat que la FFI mène en ce moment même. Et ma foi, j'espère que ce combat va continuer et se renforcer dans le temps. Plus, en fait, le temps passe et plus il y a de monde qui est convaincu des dangers des brevets logiciels et qui se mobilise autour, plus nous avons d'objections qui sont levées et plus, ma foi, on arrive à faire prendre conscience à nos décideurs politiques des réalités des dangers des brevets logiciels.
Je vous rappelle donc pour le lire en français ffii.fr et pour tous vos amis qui sont à l'étranger et qui ne connaissent pas le sujet, vous allez sur ffii.org, traduit en plusieurs langues, et cela permettra à tout le monde de prendre conscience de ce problème qui est en train de nous tomber dessus mais dont évidemment beaucoup de médias ne parlent pas. Dès que c'est un petit peu compliqué, on n'ose pas traiter le sujet, on préfère de loin, et je l'ai encore vu aujourd'hui traiter en deuxième sujet principal du JT, les chutes de neige en France. Merci beaucoup, J-Bus, d'avoir passé ces deux heures avec nous.
Merci à vous.